Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Feuilles Vives numéro 23. Il y a deux mois, nous vous parlions pour la première fois des métairies du pont Saint-Michel. Nous avions alors suivi Anne-Lise et Cédric pour une initiation au jardinage auprès d'élèves d'une école maternelle. La construction d'une butte en lasagne que les élèves pourront travailler, ensemencer, planter et récolter tout au long de la saison. Une action dans la durée à haute valeur pédagogique ajoutée, documentée dans notre reportage numéro 19. Nos deux protagonistes font partie du collectif des métairies du pont Saint-Michel, actuellement en train de s'installer sur une vieille prairie de 2,7 hectares à la limite sud du bâti blésois. Présentation du collectif et de son projet agricole, coopératif et culturel en milieu périurbain par Agathe Gourdeau-Montagne.
Alors il y a Thomas qui est épicier dans le centre-ville de Blois et qui est aussi historien. Arthur qui est diplômé de l'école du paysage, de la nature et du paysage et qui souhaite devenir maraîcher sur le site. Anne-Lise et Julien sont géographes urbanistes. Anne-Lise commence une activité pour développer des jardins partagés pédagogiques à Blois. Et puis Julien, lui, passe un CAP cuisine. Il y a Cédric qui est animateur nature et qui s'occupe principalement, mais pas que, du jardin pédagogique. Et puis il y a moi, et donc moi j'ai une formation en histoire, en tourisme et patrimoine. Et à côté de ce projet-là, j'ai développé des visites ludiques à Blois. On porte les mêmes valeurs en fait, les mêmes envies qui sont liées à l'alimentation, à mieux manger, qui sont liées à l'environnement aussi, sa préservation, et faire connaître aussi comment préserver. C'est lié à l'histoire, au patrimoine, sa valorisation. C'est comme ça, ces différents éléments qu'on est tous d'accord en fait sur le fond. Et après, on a travaillé sur la forme et comment intégrer les volontés de chacun dans un même projet. C'est né de plusieurs rencontres entre les différents membres du collectif, parce qu'on ne se connaissait pas tous au début. Et puis, rencontre avec ce terrain-là qu'on a choisi dès le départ, où il y a une vieille grange qui date du XVIe siècle et des terrains qui sont d'origine maraîchère, donc pour construire un lieu sur le jardin, c'était plutôt cohérent. Et donc c'est né de rencontres avec différentes envies, on était plusieurs à sortir de nos études, et à pas soit savoir ce qu'on voulait, soit pas trouver ce qu'on voulait, soit chercher du travail mais pas ce qui nous convenait, etc. Et donc là, ça permettait de travailler sur un projet commun et chacun a apporté ses compétences et ses envies et c'est ça qui a permis de définir le projet aujourd'hui. Il s'agit de créer un espace de différents jardins à Blois-Vienne avec un jardin partagé, un jardin maraîcher, un jardin pédagogique et un jardin culturel où il y aura différents événements culturels et festifs. C'est de créer un espace convivial dans le quartier où les gens peuvent venir se rencontrer, un espace d'échange intergénérationnel, ouvert à tous, et créer une dynamique en fait, participer en fait à la dynamique aussi qui se crée à Blois-Vienne et venir un peu participer à ces différentes animations pour faire vivre le quartier.
D'accord.
Et faire oublier un peu cette idée du quartier Vienne, l'image négative qu'on peut avoir sur le quartier Vienne. Pauvre, avec des gens populaires qui est un peu triste ou peut-être même un peu dangereux, enfin, c'est pas ça, c'est oui un quartier populaire mais c'est comme un village, les gens se connaissent, les gens sont contents de se voir, il y a des échanges et il y a une belle dynamique. C'est un quartier qui date de l'Antiquité. Il y a les premières installations humaines remontent à l'Antiquité. C'est sur en fait, le bombement naturel qui permettait d'échapper aux crues régulières de la Loire, Donc les premières installations ont eu lieu là, et puis au fur et à mesure, au Moyen-Âge, ça s'est développé dans les zones inondables. Et il y avait des activités commerciales, notamment rue Croix-Boissée, rue de la Chêne, des négociants en vin, beaucoup de liens avec la Loire, des mariniers. Et puis au XIXe siècle, il y avait aussi beaucoup de commerce, de nombreuses buvettes, il y avait un vrai dynamisme, et peu à peu, au XXe siècle, ça a un peu périclité, les commerces sont fermés, et puis là on voit que ça réouvre, donc c'est chouette. Les puissants de la ville, les rois et beaucoup les monastères avaient des granges, des terrains, et il y avait beaucoup de ces granges-là qui étaient installées à Blois-Vienne. Et donc il y avait une grosse culture maraîchère. Et jusqu'au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, il y avait encore 70 maraîchers qui étaient installés. Et puis on voit sur les plans ou les cartes postales anciennes, les photos, c'était beaucoup d'espaces cultivés et beaucoup moins d'habitations qu'aujourd'hui.
D'accord. Et donc oui, c'est l'urbanisation en fait qui a fait que le maraîchage a reculé ou...
Oui, et je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi, c'est dans ces époques-là, je crois que dans les années 60-70, qu'il y a eu la mécanisation accrue, faire plus des grands terrains que plein de petites parcelles, et c'est ça, et puis je pense que c'est ça qui a aussi joué.
Oui, les circuits commerciaux qui se sont rallongés, qui n'avaient pas forcément besoin d'être à côté d'un pôle de consommation pour avoir une activité agricole.
Oui, je pense, et puis là ça revient doucement. On se rend compte que c'est bien les circuits courts, de savoir d'où viennent les légumes que l'on mange.
Alimentation, convivialité et mise en valeur paysagère sont trois des piliers du projet des métairies du Pont-Saint-Michel. Chacun des différents types de jardins, partagés, maraîchers, pédagogiques, culturels, doit, avec son fonctionnement et son aménagement propre, amener une certaine manière de produire, de consommer et de communiquer avec le public. Visite du terrain et tour du projet avec Arthur Lacroix, le futur maraîcher des métairies.
Donc là, on pénètre dans le jardin partagé. Et ça, en fait, ça va pouvoir être aménagé par les personnes qui vont travailler dans le jardin partagé.
Qui sont en train de travailler,
d'ailleurs. On les entend peut-être. Et oui, là, ils sont en train de semer, planter. C'est la bonne période. Donc. Puis avec le petit soleil, c'est agréable. Et donc voilà, cette allée qui traverse le jardin partagé, elle arrive sur l'espace qu'on a appelé le village. Et parce qu'en fait, on va créer plusieurs petites cabanes qui vont permettre d'accueillir les activités pédagogiques sous couvert s'il pleut, et puis avoir des petits jardins pour faire les semis avec des châssis, une cabane peut-être pour faire la cuisine, une cabane pour nettoyer les légumes, une cabane pour entreposer les outils, tout simplement.
Alors, c'est l'espace ici autogestion et autoconsommation.
Tout ça, oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on a envie d'avoir un petit village de cabane à côté, pour que les gens puissent après cueillir leurs produits, les nettoyer sur place, les cuisiner sur place et pouvoir manger ensemble. Parce que ici, vraiment, le mojo, c'est de passer vraiment de la culture à la consommation sur place, quoi. C'est vraiment partager des moments, partager l'ensemble de la chaîne, en fait, depuis la production jusqu'à la dégustation.
Alors, pour le jardin partagé, donc il y a à peu près 3000 mètres carrés. C'est des personnes qui vont adhérer à ce jardin-là, payer une cotisation annuelle. Et ils pourront cultiver ensemble et décider ensemble du jardin, des différentes plantes, légumes qui vont faire pousser. Pour l'instant, c'est Anise qui s'occupe de faire vivre le jardin, qui anime chaque semaine des ateliers pour accompagner les participants. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, ils soient de plus en plus autonomes et qu'ils aient plus besoin d'un médiateur pour les accompagner.
Je vous ramènerai d'autres graines. Là, j'ai trouvé des petites aubergines sympathiques. Et comme mon papa il en a planté plein d'une autre variété, on pourra lui échanger après des pieds.
Ah oui. Donc on pourra semer ça. Est-ce qu'on pourra commander d'autres choses?
Oui, justement, je voudrais que je ramène le catalogue ou les catalogues, qu'on regarde les variétés, que je puisse lancer la commande, comme ça on pourra acheter tout d'un coup. Et j'ai trouvé un autre truc qui était pas mal fait aussi pour les associations de culture, donc je vous l'apporterai aussi. Et puis j'ai eu d'autres idées, mais je les ai notées, je les ai oubliées. Mon cerveau va s'éteindre ce soir.
Bon,
déjà, voilà, donc samedi prochain, 14h30.
Ouais. On va préparer, creuser un petit peu.
Ouais, là, et puis on va continuer à faire les autres, l'autre côté des parcelles aussi. Il faut que je rachète de la corde parce que je crois qu'il n'y en a plus. C'était ça la dernière fois, il n'y en avait plus.
Oui, là on a utilisé.
Donc ça que je fais.
Il y aura le jardin pédagogique qui sera animé principalement par Anne-Lise, par Cédric et par Arthur. Et l'idée, c'est de recevoir tout type de public, des scolaires, des adultes, des personnes handicapées, empêchées. Différents espaces qui seront un peu adaptés aux besoins des différents publics.
L'espace là devant lequel on se trouve, ça va être un espace, c'est un jardin d'eau. Donc on a prévu de mettre une réserve d'eau à cet endroit-là, tout simplement pour des raisons techniques, d'arrosage. Et en fait, à partir de cette citerne d'eau, on va créer un jeu d'eau qui va parler justement du cycle de l'eau, qui va parler justement de la crue, de pourquoi il y a une crue, de l'infiltration de l'eau, de tout ça, à travers tout un jeu à partir de la citerne. Et donc, comme on sait ici, on est en zone inondable, donc on veut cultiver un peu cette identité avec le risque de la crue, qui est quand même présent, même si on est à 300-400 mètres de la Loire. Et donc on veut en parler quand même ici, parce que ça contraint énormément nos aménagements aussi. Et après ce jardin sur la thématique de l'eau, on va avoir un jardin où on va découper des petites parcelles qui vont pouvoir être louées par des écoles. Et nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est vraiment monter un programme sur le long terme avec des écoles. Pour montrer aux élèves un peu le cycle de la vie, mais au lieu que ça soit juste sur un atelier ponctuel, c'est dédier une petite parcelle à une classe et par exemple commencer en CP, que les élèves commencent à appréhender toute la matière existante, c'est-à-dire le sol, les insectes qui sont déjà en place, les plantes sauvages, comprendre un peu et appréhender le sol pour après commencer à planter. Pour qu'après cette classe de CP, en CE1, elle puisse continuer sur la même parcelle et ainsi de suite jusqu'en CM2 et pourquoi pas après jusqu'en 3e, on ne sait pas, vu que le collège Blois-Vienne est pas très loin. On ne sait pas, on n'a pas encore monté totalement ce programme, mais c'est ce qu'on aimerait vraiment proposer, pas des activités ponctuelles, mais vraiment un investissement tous les ans des écoles pour que y ait une vraie prise de conscience de ce que c'est qu'un jardin par les élèves. Quoi.
Il y a le jardin maraîcher qui sera cultivé par Arthur, ça c'est son projet professionnel. L'idée c'est de créer un jardin pour les restaurateurs locaux. Donc d'aller les voir, leur demander quels sont leurs besoins, quel type de légumes, quelle quantité, et puis de produire vraiment en fonction de ce qu'ils demandent. Et ça permettra d'avoir une production en circuit ultra court parce que ces restaurateurs sont à 1 km, 1,5 km du site. L'objectif aussi, c'est de permettre de vendre la production au groupement d'achat qui sera créé sur le site. Donc de faire de la vente directe sur le site.
Donc je vais aussi tabler sur des planches de culture mixtes qui sont pas comme à côté. Il y a Anne-Sophie Casté qui travaille à côté, qui fait d'excellents légumes aussi. Mais elle est sur un système beaucoup plus linéaire avec des planches de culture monospécifiques. C'est-à-dire que c'est une ligne de choux et puis une ligne de carottes à côté, enfin pas forcément à côté, mais je veux dire c'est des lignes monospécifiques. Moi j'aimerais bien justement essayer de tabler sur des plantes qui s'aident les unes entre elles, c'est-à-dire que par exemple la carotte qui est réputée pour avoir beaucoup de soleil, elle pousse très bien en mi-ombre au final, et sachant que le terrain ici sèche très très vite, moi j'ai envie de protéger par exemple mes carottes du dessèchement du sol grâce à deux plantes devant, donc ça peut être du maïs, une ligne de maïs qui est un peu plus loin, enfin et ainsi de suite. Et en fait tabler sur une osmose des cultures en mélangeant les espèces pour qu'elles s'aident mutuellement, ce qui est un mode de culture qui supporte pas la grosse échelle parce que c'est beaucoup plus de travail manuel, c'est beaucoup plus de temps. Et on peut pas tout retirer d'un coup, je veux dire, c'est pas comme on a une ligne de carottes, on l'entame à un bout, on retire une partie de carotte et ainsi de suite. Là, c'est plus de la cueillette. sachant que j'aime aussi beaucoup la cueillette de plantes sauvages. Ça correspond plus à mon mode de production, quoi.
D'accord. Oui, donc quand c'est vraiment un maraîcher traditionnel pouvait pas s'installer parce qu'un maraîcher traditionnel, il arrive avec son tracteur, ses outils, ses planches calibrées, monospécifiques comme tu disais. Donc il va avoir besoin de beaucoup d'espace pour produire beaucoup.
Voilà, oui.
Alors que toi, ça va être un itinéraire moins mécanisé, donc des allées plus petites, comme tu disais, plus de travail manuel, donc on peut plus concentrer les cultures. Et un mode de commercialisation qui permet aussi de dégager une valeur ajoutée beaucoup plus importante que Anne-Sophie Castet à côté qui vend en semi-gros ou en gros. Ouais.
Exactement, oui.
Et pour finir, le jardin culturel événementiel qu'on appelle Agora, et qui permet de recevoir des événements donc, culturels de type concert, théâtre, mais également des marchés de producteurs ou des brocantes. Enfin, c'est un espace assez grand. Et pour cet été, on va faire un festival, donc ce sera l'inauguration de ce jardin-là, avec un espace détente, avec une petite restauration qui sera proposée, une buvette, des fauteuils faits en palettes récup. Les gens pourront venir profiter du jardin, d'être ensemble. Il y aura peut-être des petits jeux à côté, du type molki, pétanque, voilà, pour se détendre. Et puis, il y aura aussi un espace à côté, l'espace scénique, où auront lieu les spectacles, théâtre, concerts, cinéma en plein air, contes.
Et donc là, on a ce projet qui est très foisonnant, avec l'installation d'une activité agricole, l'installation d'une activité pédagogique, une association de jardins en autogestion, un espace culturel. Qu'est-ce qui fait que tous ces blocs s'assemblent ? Pourquoi c'est cohérent d'avoir tous ces espaces-là au même endroit ?
Tout simplement pour avoir une vision d'ensemble un peu des différentes échelles de production, des différentes échelles de savoir aussi. Parce qu'on jardine pas de la même manière en productif et en particulier. Il y a des notions d'esthétisme qui rentrent en place aussi. Et en fait ici on a un peu toutes ces échelles là, on a le petit jardin un peu d'agrément qui va plutôt être du côté de l'agora, on a le jardin qui est entre l'agrément et le productif, au niveau du jardin partagé on a le jardin vraiment productif sur l'espace maraîcher et en fait cet ensemble participe aussi à une économie un peu plus globale qui est que tous les espaces qui sont plus entre guillemets publics vont quand même être productifs, sachant que les feuilles mortes vont être ramassées et réutilisées sur place. On aura des travaux communs, c'est-à-dire que la taille des arbres ça va se faire en commun, mais du coup en fait, il y a une économie globale qui tient là-dedans, qui est un peu complexe à expliquer comme ça directement. Mais les légumes qui sont produits à un endroit vont être transformés à un autre endroit, mais sur site, vont servir à nourrir le public qui va venir. Y a la notion d'esthétisme va servir aussi à... Enfin, la notion de jardin et d'esthétisme va servir à l'accueil justement de manifestations culturelles dans un cadre... qui est porteur, on va dire, qui est esthétique, quoi, tout simplement. Et en fait, ces aménagements esthétiques vont servir aussi à la production des légumes. Et en fait, ça va faire une boucle, quoi. Toutes les activités se croisent tout le temps. Et on l'a mis en place en réfléchissant comme ça. C'est pour ça qu'on a été 6 à penser le projet. C'est parce que, justement, il faut que tout ce qu'on fait, il y ait une raison. Et s'il y en a 3 des raisons pour le même acte, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si on plante un fruitier, il y a la notion d'esthétisme, et la notion tout simplement alimentaire, puisqu'on va récolter les fruits. Mais aussi, c'est les feuilles, on va les utiliser pour le compost. L'ébrisement, par exemple, c'est beaucoup d'espèces qui vont permettre de dégager des manches d'outils aussi. Qui vont permettre aussi de dégager de la biomasse, parce qu'on va devoir les tailler, du coup tout ça on va pouvoir le broyer, en faire du mulch, et ainsi de suite. En fait, il n'y a pas de partie qui a qu'une seule utilité, quoi, tout simplement.
Après plusieurs mois de tractations, le collectif a enfin signé la convention d'occupation des terrains avec les pouvoirs publics. Ils avaient originellement prévu l'installation de maraîchers. Mais les terres des métairies se sont avérées trop contraignantes pour une activité agricole mécanisée qui recherche un foncier rectiligne, sans obstacle au traçage de longues planches de culture parallèles qu'un tracteur et ses outils permettent de cultiver très efficacement. Le 25 mars dernier, le collectif des métairies fêtait la signature de la convention d'occupation et l'arrivée du printemps en ouvrant son terrain au public. Des frichages, aménagements, plantations, mais aussi cueillettes de plantes sauvages pour le repas du midi, participants au projet et autres curieux étaient invités à filer la main tout en profitant d'une rare journée ensoleillée. L'occasion pour les membres du collectif de présenter leur projet et faire visiter leur nouveau terrain d'expérimentation.
Ah bah... C'est plutôt d'être le chaînon manquant en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on avait beaucoup de maraîchers ici dans les années 70 encore, 70. Ouais. Et finalement, les vestiges, c'est quoi? C'est Monsieur Papin pour l'horticulture. Puis, mais tout d'un coup, paf, on a Anne-Sophie, le projet de la collectivité qui a installé des maraîchers. Ouais. Bon, il devait en installer trois, il n'y en a qu'une pour l'instant qui s'est installée. Monsieur Papin est toujours là, il y a le lycée horticole, il y a les jardins du cœur et il y a surtout les jardins de Cocagne. Et finalement, l'idée c'est de se dire, bah, on ne peut pas retrouver les 70 maraîchers, ça a été construit, vous verrez la photo qu'on a, la photo ancienne, la vue aérienne ancienne, qui est très saisissante, hein. On voit Blois-Vienne du côté de Blois et c'est vide, et jusqu'à ce qu'on voit les métairies, et maintenant c'est tout pavillonné, tout construit. Mais par contre, grâce à un projet comme celui-ci, on peut retransmettre le maraîchage ou l'intérêt du maraîchage avec la ville, puisque Vienne était le jardin de Blois. Et en fait, c'est cette idée-là qu'il faut retrouver. Et dans l'échelon dans lequel on se place, c'est un échelon d'éducation populaire qui n'y a pas, parce que les gens ne vont pas chez Anne-Sophie, c'est une maraîchère professionnelle. Oui. Les gens qui sont en insertion vont... Dans, mais là aussi, ce n'est pas un lieu qui est forcément ouvert, sauf à la vente. Mmh. Et finalement, là, c'est un lieu où on jardine.
C'est un démonstrateur.
C'est un lieu où on va voir Arthur faire du maraîchage. Oui. C'est un lieu où on va voir Arthur peut-être faire autre chose, de la formation. C'est un lieu où il y aura aussi des bénévoles, des professionnels.
On vient d'entendre Thomas Grappi, épicier dans le centre-ville de Blois et membre du collectif des métairies. Avec un lycée horticole, des jardins ouvriers, un pépiniériste, des entreprises d'insertion en maraîchage et en horticulture et l'installation récente de la maraîchère Anne-Sophie Casté, le projet multiforme des métairies s'insère dans la continuité et le renouveau du passé agricole de ce secteur périurbain. L'enracinement dans ce lieu précis est aussi un aspect structurant du projet inséré dans son quartier et qui vise à mettre en valeur cette prairie ouverte sur le centre-ville de Blois et sur le coteau de la Loire. Mot de la fin à Arthur Lacroix qui souligne la valeur paysagère et sociale du projet.
Tous les aménagements sont axés vers le coteau. Tout simplement parce que l'élément structurant est axé là-bas et on a voulu jouer en fait sur des espaces assez bien délimités pour avoir une lisibilité du site relativement claire. Et du coup on a dessiné chaque espace de manière relativement symétrique, un peu dans l'esprit jardin Renaissance. Mais en mettant beaucoup d'arrondis, beaucoup d'esprit un peu plus libre quoi, à l'intérieur. Et d'ailleurs, tous les jardins, hormis l'Agora, sont très symétriques. Et au contraire, le jardin de l'Agora, lui, va être complètement déstructuré pour justement jouer un peu sur les différentes identités. Sachant que le jardin de l'Agora, on y rentre par une petite porte et là on découvre à moins un espace qui va être designé de manière beaucoup plus moderne. Sur ce lieu, c'est qu'il est quand même très bien placé. Il est très bien placé parce qu'on est très bien entouré. C'est-à-dire qu'il y a Anne-Sophie Casté qui est juste en face, avec qui on s'entend très bien, il y a la pépinière Papin qui est pas loin, il y a le lycée horticole, le collège Blois-Vienne, beaucoup d'écoles primaires. Le lieu est quand même relativement visible parce qu'on a besoin de visibilité pour ramener du monde. Il y a la piscine d'Aglopolis qui est juste à côté, on est le long de la déviation qui fait le tour de Blois-Vienne. Les gens peuvent facilement venir ici. Et puis il est quand même en ville, je veux dire il est assez excentré, mais il est quand même juste en, enfin, il est dans Blois-Vienne en fait. Donc les gens de Blois-Vienne peuvent facilement venir. Et puis en même temps, il est dans Blois-Vienne, mais il est juste en limite des espaces de la Bouillie qui sont juste de l'autre côté de la digue, donc à 40 mètres. Et là, c'est vraiment l'espace beaucoup plus agricole, naturel, on va dire. Et donc on est vraiment à la limite de tout ça. C'est un peu, bah, on peut parler de beaucoup de sujets, quoi, en fait, sur ce terrain-là. Il faut bien dire que le quartier Blois-Vienne, pendant très longtemps, il a été délaissé. Enfin, moi, je viens de Blois, à la base, et quand j'étais vraiment plus jeune, Blois-Vienne, ça bougeait un petit peu plus, et on a vu que Blois-Vienne, c'était en perte de vitesse. Bon, là, on retrouve un peu un élan inverse. Blois-Vienne est un peu en regain de vitesse, avec des nouveaux arrivants, et en fait, on a envie de participer, en tout cas, à notre manière, à notre modeste manière, à redonner un peu de vie au quartier Blois-Vienne, et faire en sorte que ça ne devienne pas une périphérie de ville comme on en voit beaucoup, qui sont très dégradées, sans aucun intérêt, très bétonnées. Enfin voilà, on a envie de c'est aussi un parti pris urbain, quoi. On a envie que le quartier Vienne ait un lieu de vie comme ça qui se crée. C'est un lieu certes un peu excentré, mais vraiment au contact, pour que les gens puissent facilement venir et rassembler un peu les gens de Blois-Vienne qui sont peut-être un peu, je pense, esselés de ce côté-là de la Loire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les quartiers nord, mais au final, de ce côté-là, c'est un peu, c'est très particulier. Il y a eu la ZAD avec la Bouillie qui a été créée, il y a pas mal de jardins, des jardins ouvriers qui sont en perte de vitesse. On sait que dans les jardins partagés, dans les jardins ouvriers, pardon, n'y a pas encore cette notion de jardinage bio. Du coup, il y a les anciennes pratiques qui confrontent les nouvelles. Et en fait, on a envie de permettre aussi d'avoir un lieu d'expérimentation pour ça, pour rassembler les gens, pour que ça discute, pour que ça évolue. Et voilà, le site est placé de manière très stratégique. Enfin, c'est un peu comme si le site avait choisi le collectif pour ce projet-là. Et ça, on a eu la question un peu quand on a commencé le projet. Hein. C'était, mais on a d'autres terrains à vous proposer éventuellement pour un projet. Mais nous, on s'était dit non, c'est ici qu'on veut le faire, quoi. C'est particulièrement ici, quoi. Et on s'y est tenu. Et puis là, on a un temps pour expérimenter notre projet. Et puis ça a fonctionné.
C'est la fin de cette 23e émission de Feuilles Vives. Pour la seconde fois cette année, nous nous sommes intéressés au collectif des métairies du pont Saint-Michel. Après la pédagogie du jardin avec Anne-Lise et Cédric en février dernier, c'était au tour d'Agathe et d'Arthur de nous présenter le projet lui-même ainsi que son lieu d'implantation. Les dimensions multiples du projet des métairies questionnent de nombreux aspects de notre manière de consommer et surtout d'habiter et d'aménager nos espaces périurbains. Les aménagements mono-usages comme les zones résidentielles, industrielles, commerciales ou d'activité ont contribué à l'appauvrissement de ces territoires, tantôt privatisés sous les pavillons, tantôt bétonnés sous les grands ensembles, les parkings et les préfabriqués. En mêlant sur le même site production agricole, jardinage associatif, événements culturels, mise en valeur paysagère et projets pédagogiques, le collectif des métairies cherche à faire se croiser les usages et, par suite, les publics et les discours. Pour que l'aménagement du territoire ne soit plus jugé seulement à l'aune de l'attractivité touristique ou des emplois créés, mais des espaces de sociabilité et de démocratie qu'ils ont contribué à instaurer. Retrouvez les reportages sur le collectif des métairies avec photos et documentation complémentaires dans la rubrique Feuilles vives du site studiosef.fr. A bientôt!
Un bon fermier découvrit un matin, dans sa basse-cour, une poule fort étrange.
Viens donc, Mélie, viens donc voir, je croyais aux mains que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute-la, elle fait. Oh,